This is Infinite TV from Infinite Universes. Look.
J'ai un Gilles de la Tourette inversé. Je crie que des trucs très sympas. L'horreur.
Someone once told me time is a flat circle.
My log has something to tell you. Do you know it?
I don't believe we've been introduced.
Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans l'épisode 82 d'un épisode et j'arrête le podcast 100% série de l'ACS, l'association française des critiques de séries en partenariat avec Binge Audio. Nous sommes ensemble pour une demi-heure de débat épisodique autour d'un sujet épineux cette semaine, mais néanmoins dans la bienveillance journalistique et la joie critique bien sûr.
Next one.
That's the last one.
Pierre Langlais de Télérama pour vous servir avec à mes côtés pour cette émission Delphine Rivet de Combini. Bonjour Delphine.
Salut.
Asma El Mardi de Brain Damage. Hello Asma.
Hello.
Et Charlotte Blum de CS. Salut Charlotte.
Salut.
Au menu cette semaine, un débat, que dis-je, une réflexion, que dis-je, une méditation philosophique sur un sujet à la fois artistique et politique, le politiquement correct. Les séries sont-elles plus libres que jamais de dire tout haut ce qu'elles pensent? Toutes les opinions, même les plus contestables, sont-elles bonnes à mettre en saison? A-t-on atteint un franc-parler tel qu'il n'y a plus grand-chose de neuf à dire, ou au contraire, la censure, les censures, limitent-elles les séries ou contraignent-elles certains sujets? On en cause tout de suite dans un épisode et j'arrête.
Mommy? Yeah, baby?
I forget, did you say babies come out of your pussy or your vagina?
Vagina. Why?
Well, my vagina was so small.
Yeah.
How could a baby even come out of there?
Well, that is a very good question. Something that you do not need to worry about for super, super, super long time. But your body, it's magical. And when there is a baby in there and it's all grown and ready to come out, your body knows to make your vagina hole get really, really, really big. And then the baby can just shoot out. Isn't that cool?
So you have a huge vagina?
No. No, oh no, 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 it snaps back into place.
Un extrait de I'm Sorry, série méconnue diffusée sur Warner TV à partir du 19 janvier. Le quotidien d'une femme à la langue bien pendue qui se retrouve et se met parfois toute seule dans des situations très embarrassantes et toujours politiquement incorrectes où sont convoqués racisme, sexisme et autres sujets riches en potentiel comique et en grincement de dents. On est quelque part entre Larry et son nombril et Better Things, en moins bien, mais en marrant quand même. Enfin, en tout cas, ça c'est mon point de vue. Bref, on est en territoire familier et on n'est pas choqué. Alors, est-ce qu'il y a encore des séries comiques qui peuvent choqué, j'entends volontairement, parce qu'elle pousse le curseur très loin, chers amis. Partons là-dessus.
La fête à la maison.
Oui, ça tombe bien, ça c'est vraiment très drôle.
Non, non, c'est vrai, sincèrement c'est vrai. Parce que je me rappelle avoir vu, il y a 3 ans, la première saison, parce qu'il fallait en faire la critique, même si je n'en avais pas envie. Et donc du coup, moi un truc qui m'a choqué, c'est de voir que nous sommes en 2016 ou 2017, si je me souviens bien, et nous avons un personnage latino qui ont été, enfin deux personnages d'origine latino qui ont été intégrés donc dans cette famille bien blanche, bien proprette, parce que ils étaient bien blancs, bien proprets, c'était quelque chose qu'on leur avait reproché dans les années 90. Sauf que ce latino a un accent à tirer au couteau. En 2010, et c'est un peu
mais
le ressort comique.
C'est pas politiquement
comique.
Incorrect, c'est oui, juste c'est très mal écrit comique. Et complètement
honteux.
C'est
très honteux. Mal écrit, mais moi ça me choque en fait qu'en 2018,
oui,
on ait un personnage écrit comme dans les années 80 en
oui,
fait.
Oui, mais dans ce cas-là, on va en trouver beaucoup des séries qui sont effectivement complètement contestables. Mais là, si je puis me permettre, je vais faire le journaliste. C'est
Vas-y,
une bonne réponse, prie. Mais c'est pas du tout la réponse à ma question. Je demande...
Qui choque
dont la tonalité qui aborde des thématiques très risquées et que, voilà. qui sont volontairement des séries politiques moins incorrect.
Il me semble que South Park, c'est son fonds de commerce depuis des années. Je ne l'ai pas regardé récemment. Voilà, enfin oui, toutes ces séries de ce type-là. Ouais, effectivement, Family Guy aussi. Okay. Voilà, c'est des séries dont c'est le fonds de commerce qui choque pour choquer, qui ont aussi un propos derrière, mais elles sont pas, elles assument aussi le fait de ne pas en avoir et de repousser constamment les limites. En tout cas, South Park, moi, c'est vraiment l'exemple qui me vient parce que elle m'a beaucoup choquée quand je la regardais. Je la regarde plus, mais je pense qu'elle le fait toujours.
Mais parce que c'est presque un genre. Enfin, là, on va revenir évidemment sur les séries d'animation qui sont dans une zone un petit peu particulière. Mais des séries comme Larry et son nombril, enfin Curb Your Enthusiasm, n'est pas une série bête et vieux et frontalement provocatrice. J'en ai d'autres là dans ma liste. Legit, qui est moins connu, mais qui était aussi sur une tonalité qui allait appuyer sur des zones, sur les handicaps, sur des choses, sur des personnages qui étaient pas recommandables, etc. It's Always Sunny in Philadelphia, on a fait aussi son fond de commerce. Il y a des épisodes où on est là pour rigoler du cancer. Enfin voilà, il y a des trucs très frontaux. Une série évidemment qui est aujourd'hui persona non grata, mais qui est Louis, était aussi souvent sur ces thématiques-là. Quid de ce genre-là finalement ?
C'est un peu le seul intérêt pour moi de ce genre-là, c'est-à-dire de la dramédie auto-centrée et autobiographique. Si t'es pas là pour choquer, que t'es là juste pour raconter ta vie, c'est complètement foiré. Après, moi, je me souviens effectivement que Legit, par moment, je me disais non, mais c'est pas possible. Après, ils avaient une façon de parler du handicap qui était tellement politiquement incorrecte que par moment, j'oubliais que c'est un mec qui raconte sa vie, son entourage, etc. Et j'étais hyper en colère en me disant mais comment il se permet ce connard. Et en fait, la vérité, c'est que quand c'est fait avec un peu de tendresse et quand c'est fait avec de l'expérience, on passe du politiquement incorrect à juste c'est la réalité, c'est comme ça. Et en fait, j'ai l'impression qu'on confond parfois être politiquement incorrect et être juste réaliste. Et moi, j'ai l'impression que les personnages féminins, notamment Better Things ou I'm Sorry, que j'aime beaucoup moins que Better Things, on considère politiquement incorrect des femmes qui sont juste des femmes qui ne supportent plus leurs gamins, qui supportent plus leurs mecs, qui n'ont pas envie d'aller faire les courses, qui se lavent pas. Enfin, juste ce qu'on fait tous, en fait. C'est pas politiquement incorrect, c'est juste archi-réaliste. Mais c'est tellement rare que ça rend dans cette catégorie-là.
Enfin, quand même, I'm Sorry s'applique dès le premier épisode. C'est l'histoire d'une mère d'élève qui, en fait, était actrice porno spécialiste de la sodomie. Enfin, il y a et ça parle beaucoup de. Alors après, tu vas me dire, c'est peut-être aussi la réalité.
Elle a le droit d'avoir des gamins et d'emmener ses gamins faire des playdates à l'école.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une recherche de l'humour par une forme de trash, comme on dit, j'aime pas ce mot-là. Mais dans cette série-là, comme dans les heures-là, je fais pas des questions de genre. Je fais juste. Voilà, est-ce que c'est pas, et c'est là peut-être là que je suis d'accord avec toi, sur le côté autofiction, c'est-à-dire que dès le moment où on parle de soi-même et qu'on est dans l'autodérision, c'est beaucoup plus facile d'aller taper des sujets. Larry David, il peut faire des grosses blagues sur les gens de sa communauté, voilà.
Oui, il peut faire des moustaches d'Hitler sur des magazines, c'est Larry David. Non seulement il fait ce qu'il veut, mais en plus il fait ce qu'il veut parce qu'il a le talent. C'est-à-dire que aussi pour moi, ça m'arrache la gueule de le dire, mais Louis, il y avait un talent fou. Et donc tout passait. Et en plus, il se moquait de lui-même. Donc ça passait encore mieux. Il se moquait pas de quelqu'un d'autre. Bon, bref, on arrête de parler de Louis, non ?
Oui.
Ouais, il y avait des choses sur d'autres personnages que lui-même qui étaient très intéressantes. Mais bon, ça, c'est un autre sujet.
Oui, mais c'était aussi des questionnements que lui, enfin, un cheminement que lui faisait. C'est pour ça qu'il était intéressant, Louis. Louis C.K., au moment où on ne savait pas. C'est que justement, avant le drame, c'est que justement, il faisait un cheminement comme ça. Il se disait, mais. Comment je parle des femmes grosses et donc il en a fait un épisode
avec une scène géniale balade en bord de
qui était brillant cet épisode en plus quoi et justement on savait que il allait aborder ça avec forcément de la maladresse parce que il prétend pas arriver là et tout savoir déjà et avoir les bons termes et avoir la bonne approche comment parler à ces femmes là ça lui paraissait
donc Charlotte parlait de réalisme le mot clé que j'entends dans ce que tu dis c'est franchise aussi c'est-à-dire que la voix qui est exprimée quelle que soit la personne qu'il exprime, soit sincère. Et dès le moment où c'est sincère, finalement, le politiquement incorrect n'est pas de la provocation gratuite, c'est l'expression de quelque chose qui peut être touchant et du coup qui n'est pas gratuit.
Oui, alors après, on a de l'autre côté du spectre un personnage comme celui de. Enfin, d'ailleurs, c'est pas son personnage, Roseanne Barr, qui très sincèrement est antisémite. Et je pense qu'elle est très sincère là-dedans. Et voilà. Et je pense qu'on peut aussi légitimement lui reprocher ses propos. Et voilà. Donc. Mais elle n'est pas.
Même si c'est en dehors de la série qu'elle a dérapé. Enfin,
oui, mais voilà.
Son personnage.
Non, mais la frontière du politique, les problèmes de politiquement correct sont souvent dans des zones floues entre la réalité. Et c'est à la lumière de ce qui se passe dans la réalité qu'on revoit et qu'on repense peut-être à ce qui a été dit dans les œuvres et qu'on se dit, tiens, merde, peut-être que là, en fait, il disait quelque chose, elle ou il d'ailleurs disait quelque chose d'assez gênant. Mais il y a quand même eu quelques séries qui ont, dans leur récit, fait des choses très polémiques. Et il y a par exemple cet épisode-là.
Did that do it? Did we restore the past?
Well, let's check. 9/11. Oh, there it is. We did it, Brian. We made 9/11 happen. High five!
All right, high five!
Well, that probably wouldn't look very good out of context.
Un extrait de Family Guy, les Griffins en français, dans un épisode où les personnages remontent le temps, empêchent le 11 septembre, puis se rendent compte qu'ils n'auraient pas dû empêcher le 11 septembre, donc revont dans le passé pour être bien sûr que le 11 septembre aura lieu. Et donc l'extrait qu'on entend, c'est eux qui font « Yes, le 11 septembre a lieu, trop cool, high five !» Et ça a fait une énorme polémique aux États-Unis. On imagine que les Américains, ça les a pas fait marrer du tout. Je crois que c'était aux alentours des 10 ans du 11 septembre, ça devait être en 2011. Et donc voilà, il y a encore des séries qui tentent des choses comme ça. Peut-être que c'est très particulier à la série d'animation qui peut se permettre ce genre de dérapage. Mais est-ce que voilà, il y a encore cette envie qu'ont parfois la série de dire, bah en fait, on vous emmerde, on va faire une blague douteuse.
Oh ben ça, des blagues douteuses, on en entend tout le temps, mais honnêtement, j'arrive même pas à imaginer des comédiens qui acceptent de faire un truc comme ça dans la réalité.
Bah, ils ont fait les voix.
Vive le 11 septembre, quoi. Ouais. Ouais, mais c'est pas pareil d'avoir ta gueule qui traîne ce discours-là aussi, quoi. C'est-à-dire que c'est au-delà de qui va le signer, qui va l'acheter, c'est faut l'incarner. Hein. On en reparlera avec ton. Un peu plus tard. Mais je pense qu'il y a ça aussi qui joue. C'est qu'aujourd'hui, la série, c'est un médium qui est tellement puissant, qui est tellement important, qui est tellement suivi, que même les comédiens font un peu attention à ce qu'ils font. Et que soit c'est ta série, on revient toujours à ces trucs de Better Things, Louis, et t'assumes parce que c'est ta série, soit t'es comédien, et à un moment, il y a tellement de séries que tu peux même faire le choix de ne pas y aller, quoi.
Alors Pierre Desproges, on va le citer, faudrait bien le citer à un moment, a dit hein, le fameux « on peut rire de tout mais pas avec tout le monde ». Est-ce que c'est pas de plus en plus vrai finalement? Il y a 40 ans, la sitcom All in the Family, qui est méconnue en France mais immensément populaire aux États-Unis, abordait des sujets extrêmement polémiques avec un héros réac sur une grande chaîne américaine CBS. Aujourd'hui, toutes les séries dont on parle, elles sont sur le câble, alors sauf l'animation. Est-ce qu'il n'y a pas finalement les grandes chaînes américaines sont plus prudes qu'à l'époque et le politiquement correct, il faut aller le chercher sur le câble américain.
Je ne sais pas si elle est politiquement incorrecte, mais en tout cas pour moi une sitcom comme Blackish, en tout cas une comédie comme Blackish soulève, déterre des questions de société, des questions de racisme, de bavure policière, etc. avec un franc parler qui n'est pas forcément attendu sur une chaîne de network. Et Je peux presque la mettre, en fait, dans ces séries-là. Je trouve qu'elle a, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, Delphine, une franchise, quelque chose d'assez pur, en fait, qui montre que le message qu'ils font passer, ils y croient, ils y tiennent, c'est important pour eux, et ils peuvent tout faire passer. Et vraiment, parfois, il y a des épisodes où tu te dis, mais comment ils ont fait pour vendre ça? Et d'ailleurs, il me semble qu'il y a un épisode qui a été censuré. Je ne sais plus quelle était la thématique. Mais cette année, en tout cas, il y a un épisode qui a été écrit qui n'a pas été diffusé. Donc, elle peut peut-être faire partie de ces séries-là, et c'est un network.
Je pense aussi à Au fil des jours, qui justement rit beaucoup des latinos, qui se permet, il y a eu tout un épisode sur le racisme, et qui se permet aussi de avec le personnage de la grand-mère un peu olé-olé, un peu cubaine et hors norme, qui se permet justement de jouer sur le racisme intérieur entre les personnes qui sont victimes elles-mêmes de racisme.
Oui, parce que c'est une réalité de la société, c'est-à-dire...
Parce que c'est fait avec bienveillance, en fait. C'est fait avec bienveillance, donc on rit en fait du malheur et de ce que certains peuvent subir, mais en même temps on dénonce.
Mais est-ce que la bienveillance est nécessaire? Pardon, mais la société, il y a de vrais sales cons dedans, des vrais racistes et tout. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut absolument que la série soit bienveillante, ou est-ce que la mission de la série, c'est pas aussi parfois, comme dans All in the Family, dont le héros était un peu réac, etc. Enfin, d'ailleurs, il y a des séries un peu plus réac. On a parlé de Roseanne Barr, mais il y a des séries qui sont un peu plus de droite, d'autres un peu plus de gauche, etc. Mais est-ce que il n'y a pas une mission de la série finalement de donner parole, alors évidemment pas à l'antisémite de base qui va te faire des grosses sorties, mais aux gens qui auraient des points de vue qui pourraient être un peu dérangeants?
Je pense que ça dépend de ce que cela apporte à la série. Et d'un coup, je repense à The New Normal, la série de Ryan Murphy, donc sur un couple homosexuel qui prend une mère porteuse dont la mère est homophobe, et la mère sortait des trucs, mais d'une violence, mais tout ce qu'elle faisait par ses blagues vraiment foireuses, c'était de en fait elle se ridiculisait, et ce personnage-là servait à mettre en lumière le ridicule d'avoir ce genre de propos aujourd'hui. Donc là, t'avais vraiment en plus c'était une grand-mère, enfin la totale du personnage politiquement incorrect qui faisait, en fait qui renforçait le message de la série.
Mais c'est le cas avec It's Always Sunny in Philadelphia, où globalement tous les personnages sont des gros connards à un moment ou à un autre, qui soient sexistes, qui soient grossophobes, qui soient racistes, tous. Et ils sont pas là en train de s'excuser à la fin des épisodes. Et pourtant, c'est une série qui est vraiment brillante, mais parce qu'on le point de départ, c'est ce sont des gros connards. On le sait, vous allez voir, ils sont racistes, ils ont tous les défauts, quoi. Mais et franchement, ils sont allés loin dans certains trucs. Hein. It's Always Sunny in Philadelphia. La dernière saison s'est terminée par un monument de beauté et de grâce. Et en fait, on était surpris aussi parce qu'on n'est pas habitué. Parce qu'on n'est pas habitué à ce qu'elle soit gentille.
Well, honey, I'm home.
Don't you pile honey me.
What did I do now? Oh, tonight you were making schnitzel. What a joke. You must be real mad at me, honey. I'm a very, very bad Hitler. Come here, babe.
Don't touch me. You've been late for your dinner every night this week.
Ava, babe, please. I'm the Führer.
Un extrait de I'll Honey I'm Home, une sitcom britannique de 1990 dont les héros étaient Adolf Hitler et Eva Braun, qui a été annulée après un épisode. Elle est toujours en tête de la liste des séries qu'il aurait jamais fallu diffuser. En gros, vous allez partout sur Internet. Donc, les Anglais ont essayé de faire une sitcom dont le héros était Hitler et fallait rigoler.
Mais est-ce qu'ils ont vraiment attendu la diff pour se dire bon, non, en fait, ça va pas passer, quoi?
Ils ont attendu la diff.
Elle a été commandée quand
même. Les Français l'ont fait, on l'a fait avec Lazy Company, où on rend Hitler complètement potache, drôle.
Parce que c'est pas le héros de la série, quoi.
C'est peut-être pas le héros, mais enfin, il apparaît très très vite en saison 1 et il devient presque quasiment un héros et c'est presque lui qui prend le plus de place dans les dernières saisons, enfin surtout dans la dernière, qui devient un peu plus noire et un peu plus sérieuse vers la fin. Mais je pense qu'il y a une manière de faire et il y a une manière en fait de rire aussi de nos gros problèmes historiques ou des choses en fait qui nous ont marqué psychologiquement, historiquement et même humainement. Et je sais pas, enfin, j'ai pas vu cet épisode, donc je peux pas dire. Je sais pas si Hail Honey, I'm Home l'a fait correctement ou pas, de manière intelligente ou pas. Mais on peut rire de ces choses-là si on le fait avec réalisme, intelligence et distance. Si on prend trop les choses à cœur et on le parle et qu'on sort des remarques racistes qu'on a déjà entendues, qui sont la conviction de certaines personnes, c'est un peu normal qu'on ne supporte pas en fait d'entendre ce genre de paroles.
Parce que finalement, je citais des proches en disant peut-on rire de tout avec tout le monde. Plutôt la question, ça serait pas qui peut nous faire rire de tout. C'est-à-dire que je parlais de Larry David qui peut faire une blague sur la Shoah, ça passe. Jerrod Carmichael, on n'a pas parlé de lui, mais du Carmichael Show qui est noir, qui peut faire des blagues sur les noirs. Ou Jordan Peele. Est-ce que Pamela Adlon peut faire peut aller très loin donc quand elle parle des femmes. En gros, est-ce que il faut que les gens soient concernés pour avoir le droit, si je puis me permettre, d'aller très très loin dans l'humour? Ou est-ce que au contraire ça s'appelle de la censure?
Mais ça c'est de l'inspiration de stand-up en fait. C'est de prendre des choses qu'on a vécues, qu'on a été victime de l'antisémitisme, du racisme, du sexisme ou de l'homophobie, et de le tourner à la dérision de manière justement à réfléchir sur ces paroles-là et l'impact de ces paroles en fait sur ces personnes-là. Et Louis C.K. c'est exactement ce qu'il a fait. Il vient du stand-up et il a fait ça justement dans sa série. La majorité des séries de comédie, c'est des écrivains de stand-up ou c'est des scénaristes en fait qui sont passés par là, qui savent gérer la comédie et qui justement se nourrissent de leur expérience en fait pour pouvoir justement rire de ces choses-là, mais de manière intelligente.
Non seulement pour moi c'est pas de la censure, mais en plus je trouve que ça enrichit justement le matériau en fait. Moi je regarde beaucoup de stand-up et effectivement des mecs qui font ah les filles hein, elles sont comme ça, elles passent 3 heures dans la salle de bain, j'en peux plus, c'est un manque d'imagination total en plus, tu vois ce genre de vanne là, ou qui vont faire des blagues sur le viol aussi, c'est tellement drôle.
Mais est-ce qu'une femme qui ferait la même blague, ça serait drôle? C'est ça que je
alors
la question,
déjà, en fait. Elle ne ferait pas
la même
blague.
Elle ne ferait pas pareil.
Mais quand tu vois Anna Gatsby, par exemple, qui a fait ce merveilleux spectacle Nanette, elle parle d'agression sexuelle. Bon, t'as la gorge serrée, mais tu rigoles aussi, quoi. Quand il y a des tabous qui ont été brisés aussi comme ça parce que des personnes concernées ont apporté un discours qu'elles connaissent. Je pense à Phoebe Waller-Bridge qu'on a qualifié de trash, mais en réalité c'est juste une femme qui raconte sa vie sexuelle et ses tourments. Quand on parle de Rachel Bloom dans Crazy Ex-Girlfriend, qui parle de bon, ça a été un peu censuré, mais de period sex, de sexe pendant les règles, c'est un truc qu'on avait quasiment, enfin à ma connaissance, jamais entendu parler sur une chaîne de network. Donc, pour moi, ça sert à enrichir les séries ou les spectacles quand on parle de stand-up. Mais en plus, ça fait vraiment avancer les choses et ça permet de lever des tabous aussi. Je pense qu'un mec qui viendrait parler de sa meuf qui a ses règles, bon, enfin, je vois pas comment ça fait avancer le truc, quoi. Même s'il le fait intelligemment et tout, c'est pas le souci, mais je veux dire, enfin, ça vient pas d'une expérience propre, donc on va faire, c'est drôle et, enfin, voilà, quoi. C'est pas intéressant, je trouve. Ça fait pas avancer les choses.
Bah, tu vois, par exemple, t'as une humoriste stand-up qui fait un truc de télé-réalité sur Netflix au niveau de la pâtisserie qui s'appelle Nicole Bayer et qui est très en surpoids, mais qui est extrêmement drôle. Moi, j'ai vu son spectacle sur Netflix en ce moment. Il y a une série de spectacles sur les stand-up dans le monde entier.
Nicole
Byers est exceptionnelle pour rire justement du surpoids, mais elle est vraiment en surpoids et elle prend son surpoids, elle en fait une arme justement pour décrédibiliser tous ceux qui sont grossophobes, en fait, tout simplement.
Alors, pour en revenir aux séries télé plus particulièrement, même si c'est vrai qu'il y a un lien qui est aujourd'hui assez fort entre le stand-up et les séries télé, est-ce que du coup ça donne un passeport aux téléspectateurs ? C'est-à-dire, je passe de l'autre côté de la télévision, est-ce que dès le moment où la personne qui me fait rire sait de quoi elle parle, je peux, moi par exemple, rire avec cette personne-là, c'est-à-dire que la question ne se pose pas avec le public.
Je pense que c'est à l'auteur de connaître sa légitimité. Je pense qu'on a tous fait confiance à Lena Dunham quand on a vu Girls. Elle nous a fait rire, plus ou moins, sur sa génération parce qu'elle la connaissait. Derrière, elle a fait Camping. C'était une catastrophe parce qu'elle savait pas de quoi elle parlait. Et que, pour moi, c'est vraiment à l'auteur de savoir quelle est sa limite, de ne pas être une fraude. Parce que, en tant que spectateur, en tant qu'être humain, tu la sens, la fraude.
Mais ça peut exister quelqu'un qui est très drôle et qui arrive à être très drôle. Par exemple, si c'est une writer's room, s'ils sont plusieurs et qu'il y a un échange, qu'il y a quelque chose, ou même, je sais, j'ai pas d'exemple qui me vient là tout de suite, mais est-ce que c'est nécessaire cette sécurité dont tu parlais, enfin finalement cette connaissance du sujet.
Mais pour moi, l'épisode qu'on a pris en exemple, alors décidément, on va en parler toute l'émission en fait de celui-là, de Louis avec sa copine grosse. Quand tu vois l'épisode, moi je l'ai trouvé extraordinaire cet épisode, mais surtout quand tu vois l'épisode, tu vois qu'il ne l'a pas écrit avec son cerveau de Louis. Non. Il a su se mettre dans la peau de la personne qui lui parlait.
Donc c'est possible.
Je suis même sûre qu'il a écrit avec des gens qui l'ont conseillé. C'est pour ça que je te dis, pour moi, il s'agit de la légitimité de l'auteur. Est-ce que tu es capable de parler de ça de manière intelligente, talentueuse et humaine, ou est-ce que juste tu te moques ?
Pardon. Non, juste pour dire que je pense qu'en plus, la différence de point de vue, ce qui dissocie vraiment ces deux points de vue, c'est que d'un côté, on va avoir de la moquerie et de l'autre on va avoir un vrai discours, une blague sur soi-même ou une invitation à blaguer avec, ce qui est quand même très différent et qui a pas, enfin c'est pas le même mécanisme.
Devient une arme pour ces personnages pour essayer justement de changer les choses en essayant justement de changer les mœurs, c'est de faire comprendre en fait que tu sois antisémite. Enfin, généralement, il n'y a pas de raison parce que cette personne en face, elle est très similaire et elle arrive à rire d'elle-même et elle est aussi différente que toi, que tu peux trouver quelqu'un dans ta famille. Enfin bref, tout ça, c'est pour dire que c'est ces moqueries qu'on se prend dans la tronche qui nous font rire pendant que ce soit le dialogue d'une personne ou un spectacle ou peu importe. Ça nous permet aussi de réfléchir sur la violence en fait des mots qu'ils reçoivent, mais en même temps l'importance de ces mots et la réalité en fait de l'expérience de la personne vis-à-vis de cette moquerie.
If things go well, I may be out with her all night.
Dude, don't do that to me.
Oh no, it's cool. You can stay here. My parents won't mind.
No, it's not that. I just don't want to be stuck here all night with your fat sister.
Hey.
Monica, why don't you finish off these pies? I don't have any more room in the fridge. No, thank you.
Well, Judy, you did it. She's finally full.
Un extrait de Friends et d'un épisode où apparaît celle qu'on appelle Fat Monica, la grosse Monica. Abordons les deux aspects les plus explosifs de ce débat, à commencer par celui-ci. Faut-il revoir les séries à l'aune de l'évolution des codes sociaux, si positifs soient-elles ? Autrement dit, peut-on condamner une œuvre diffusée à une époque où on pouvait rire de l'obésité d'un personnage ou d'autres traits de sa personnalité ou de son physique, dès lors que ça ne se fait plus aujourd'hui ? Vous avez 4 heures, chers amis.
On a déjà pu rire. Enfin, est-ce qu'il y a une époque où c'était normal on le faisait, de rire
et ça
de
créait
l'obésité
pas la polémique.
Je suis pas sûre que les gens riaient pas jaune déjà à l'époque et je pense qu'on s'est tous laissé un peu berner. Je viens de me finir le rewatch des 10 saisons là, donc maintenant j'ai le regard clair de la meuf de 40 ans vénère, donc c'est plus du tout le même regard. Et je pense qu'on s'est laissé berner par l'amour qu'on avait pour ces personnages, mais il y a énormément de réflexions, non seulement de grossophobes, mais homophobes dans Friends, mais c'est flippant. C'est flippant.
Oui, mais c'est maintenant que tu t'en rends
compte.
Mais c'était pas
politiquement.
C'est ça ma question en fait.
Bah parce que j'étais pas la même personne non plus.
C'était oui, mais il y avait des gens qui étaient il y avait des gens qui étaient toi, il y avait des gens qui et ça créait pas les polémiques que ça créerait aujourd'hui. Aujourd'hui, ça créerait d'énormes polémiques, c'est ça ma question.
Je pense qu'il s'agit aussi de savoir si tu te sens concerné par la blague en question.
Enfin, moi je me J'ai 36-15 My Life, je pesais 90 kilos quand j'ai regardé Friends à l'époque, dans les années 90, c'est une true story. Et franchement, ça ne me choquait pas à l'époque, parce que c'était la norme. On riait des gros n'importe où, dans n'importe quelle série, n'importe quel film, enfin c'était la norme. Bizarrement, j'ai revu la série via un streamer que tout le monde connaît, et c'est vrai que j'ai un peu plus tiqué. Parce que nos codes sociétaux et nos codes moraux ont évolué. Le surpoids n'est plus un problème par rapport à la beauté. À l'époque, le surpoids était synonyme de moche, grosse, geek, bizarre, tout ce que tu veux. Ce qui me faisait rire à l'époque avec Monica, où je faisais un espèce de parallélisme avec elle parce que j'étais grosse aussi, ne me fait plus rire maintenant. Non pas parce que j'ai maigri, mais parce que justement, on a réfléchi sur la notion en fait, de l'image de la femme dans les séries, dans les magazines, etc. Et que on ne peut plus accepter en fait de voir ces choses-là, et c'est peut-être aussi pour ça que les gens l'ont pris, la génération Y l'a pris très mal, c'est qu'ils n'ont pas grandi justement avec ces moqueries vis-à-vis de l'obésité.
Ce que tu sous-entends, c'est qu'en fait Friends n'est pas devenu politiquement incorrect, c'est jusqu'à gay. L'époque. Ouais, c'est juste qu'à l'époque, c'est pas devenu politiquement incorrect à rebours, si j'ose dire.
Non, c'est que nous, en tant que société, on a, en tout cas dans certaines classes et certaines bulles de la population, on a déconstruit pas mal de choses, hein, ce qu'on appelle le progressisme, mais qui pour certains est un gros mot, mais bon voilà, enfin le progrès c'est plutôt une belle chose. Donc on a déconstruit pas mal de ces discours-là. On est globalement ok pour dire aujourd'hui qu'il y a certaines populations qui sont victimes de discrimination et qu'on a envie de protéger un petit peu, parce que c'est trop facile d'être en haut de la chaîne alimentaire et de se moquer des autres qui souffrent. Donc,
Me fais l'avocat du diable, mais est-ce que c'est pas un des éléments de l'humour de se moquer des gens, en fait?
Bah, c'est-à-dire que c'était très limité, hein, je veux dire. Enfin, on se moquait quand même toujours des mêmes. Donc, à la limite, moi, j'ai envie de dire aujourd'hui aux gens qui écrivent des comédies.
Pauvres Belges.
Je veux dire, creusez-vous un petit peu, parce qu'effectivement, c'est le va-tout, quoi, des auteurs et des autrices de comédies comme ça qui se jettent comme des charognards sur les trucs hyper faciles de ah, c'est une grande folle, machin. Enfin, c'est insupportable aujourd'hui, effectivement. Mais Friends, il faut la regarder, bien sûr, avec le recul qu'on a aujourd'hui, avec la grille de lecture qu'on a aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier que c'est une série de son époque aussi.
Est-ce que le politiquement incorrect, c'est temporel? C'est-à-dire que ça évolue avec la société. Évidemment, aujourd'hui, si on voulait être politiquement incorrect, ben il faudrait réagir à l'actualité, à la société dans laquelle on vit, etc. Ça paraît être une évidence.
Bah, c'est le plus dangereux, en fait. C'est-à-dire que essayer de rire de ce C'est-à-dire, c'est comme rire avec l'air du temps.
Rire de ce qu'on ne devrait pas rire de, si j'ose dire.
Mais c'est hyper dangereux. C'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est où t'as un talent fou, une légitimité, une intelligence, où tu fermes ta gueule. C'est-à-dire que c'est, non, mais vraiment, c'est ça. C'est que tu peux pas te dire, en ce moment, c'est cool de parler du harcèlement sexuel dans le milieu du cinéma, je vais faire des blagues. Non, tu vas pas faire de blagues, en fait. Tu vas aller réfléchir vraiment 5 minutes pour voir si t'es vraiment malin et si vraiment c'est drôle et si t'as vraiment réfléchi et si tu es respectueux et si. Puis si à la fin t'as répondu oui à tout, tu peux y aller. Mais c'est, pour moi, c'est pour ça que je dis c'est casse-gueule. C'est-à-dire que si c'est dans l'air du temps, c'est le truc le plus fragile du moment aussi.
Donc oui, mais là, je vous avais vu, j'ai mis mon costume de d'avocat du diable, mais est-ce que ça, justement, c'est pas une forme de politiquement correct? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une forme de pression où on ne peut plus dire certaines choses? Je sais, là, c'est très compliqué cette phrase à dire, mais je la dis quand même. C'est-à-dire, est-ce que finalement, il y a une grande frilosité parce que oui, on est dans une époque où il y a des choses, on peut plus se lâcher complètement, quitte à dire des conneries. C'est-à-dire qu'il faut plus dire de conneries, quoi.
Alors, tu as le droit de dire des conneries. En revanche, faut accepter aussi qu'on te le foute dans la gueule après. Maintenant qu'il y a les réseaux sociaux, c'est merveilleux. Il y a t'as droit à des lynchages comme ça. Mais je pense que pour moi, je vois pas ça comme une censure ou comme pour moi c'est juste une demande d'exigence et de voilà, c'est faites mieux que ça. Vous pouvez être plus créatif que ça, faites des vannes mieux construites, essayez de...
Tu crois pas que même quelqu'un qui ferait une série sur un truc hyper casse-gueule, mais hyper bien écrit et tout, il se ferait pas quand même défoncer? elle ou
il y aura toujours des gens qui vont critiquer, qui vont râler, qui seront pas contents.
Mais que la police, en gros, avec les réseaux sociaux et tout, on l'a dit, que la police du bien-pensant sera beaucoup plus rapide à dégainer.
Mais c'est pas ce qui s'est passé que cette série Netflix que j'ai absolument pas regardée.
Insatiable.
Voilà. Oui. C'est pas un procès.
Ah, c'est un procès a priori.
Alors
qui a
moi
eu lieu.
Je l'ai vu.
Mais c'était nul.
Non, en fait, c'était surtout nul, mais pour d'autres raisons. C'est le fat suit en fait qui posait problème. C'était vraiment, tout est parti du fat suit de l'actrice, en fait, qui était anciennement grosse.
Oui, puis c'est quand même l'histoire de quelqu'un qui devient belle.
Voilà,
entre
qui devient
guillemets,
belle, mais en même temps, en fait, les premières reproches.
Oui, mais
premières...
non, dans la série, non, mais belle.
Pierre, les premières reproches qu'on a fait à cette série, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris une vraie actrice grosse et qu'on l'a fait maigrir? Sauf que, c'est pas si simple de maigrir, déjà.
Tout le monde n'est pas Christiane Bell.
Voilà. Et tout le monde ne prend pas ou ne perd pas du poids aussi facilement, sinon, tous ceux qui font des régimes ne seraient pas multimillionnaires. Mais du coup, c'est que surtout, on reproche en fait de prendre des procédés qui dataient des années 90 et de Monica et son fat suit et de les intégrer en 2018, alors que justement, il y a énormément d'actrices qui sont en surpoids, mais qui ont justement des grandes places dans la télévision, que ce soit les séries ou même dans
il
les...
Il y en a très peu quand même.
Ça commence à changer doucement. Ça commence
dans
à
ma
devenir...
tête, j'ai This Is Us et Dietland qui était merveilleuse et qui a été annulée aussi sec, mais...
Mais ça répond à ta question de la temporalité de parce qu'un truc qui est passé avec Monica n'est pas passé et ça s'est fait lyncher cette série. Je l'ai pas regardée donc j'ai pas d'avis.
Mais juste insatiable pour moi ce qui m'a le plus choqué en tout cas enfin quand j'ai vu le trailer, c'était que déjà on arrivait à discerner ce discours qui est c'est même pas bon le fait sous je peux comprendre
t'es
que ça heurte certaines personnes. C'était j'étais grosse, je me faisais harceler à l'école pour ça à cause de ça et donc, comme je subissais les moqueries, et un jour, j'ai dû perdre du poids, un peu obligée de perdre du poids. Elle revient au lycée, elle est super, c'est une Barbie, quoi. Et du coup, tout d'un coup, elle devient belle, quoi.
Le truc, en fait,
c'est super
que
gênant comme
insatiable,
discours.
Insatiable, malgré tous les défauts qu'elle a, il y a un truc que moi, j'ai envie de lui rendre quand même, c'est que toute la saison, on a quand même le questionnement de cette jeune fille qui a perdu tout ce poids et qui a du mal à savoir qui elle est en fait, qui se découvre au lycée autrement. Et c'est vrai que c'est quelque chose que beaucoup de femmes qui ont perdu du poids vivent aussi. Sauf que ça a été fait avec tellement de maladresse, tellement d'inconsidération et dans un scénario qui est tellement loufoque, taré et poussé à l'extrême que du coup, en fait, ce discours-là, tout le monde passe à côté.
Mais donc, on en revient à cette demande d'exigence. Faites mieux.
Soyez intelligent quand vous voulez parler de choses qui sont importantes comme ça.
Eh bien, terminons là-dessus cet épisode 82 d'Un épisode et j'arrête sur le politiquement incorrect dans les séries. Merci à Delphine Rivet de Combini, à Smaël Mardi de Brian Damage et Charlotte Bloom d'OCS. Merci aussi à Quentin Bresson qui était à la technique cette semaine. On se retrouve la prochaine, deux semaines, pour de nouvelles aventures. Mais d'ici là, n'hésitez pas à aller nous liker sur Twitter et Facebook. Vous y trouverez des comptes ACS et Un épisode et j'arrête. Salut à toutes, salut à tous et à la semaine prochaine.
Next one. Whoa, wait.
That's the last one!